Merci d'écouter Micro Rebelle et bienvenue pour une nouvelle série d'émissions Micro Littéraire. Vous venez d'entendre Las Casas Más Grandes, des choses plus grandes, du groupe La Flor del Otro. Ce groupe nous livre des compositions entre cumba, salsa et rumba qui nous permettent d'introduire cette nouvelle émission Micro Littéraire. Cette semaine, en effet, nous débutons un cycle consacré à un livre formidable, écrit par un écrivain formidable. Il s'agit de « La révolte des pendus » de Beethoven. On va d'abord évoquer Beethoven. C'est un écrivain qui commence à être connu en France, alors qu'il l'est et depuis de nombreuses années hors de France, et notamment aux États-Unis, au Mexique et en Allemagne. Beaucoup de gens le connaissent sous l'angle d'un écrivain de romans d'aventure, notamment car c'est lui qui a écrit « Le trésor de la Sierra Madre » dont John Huston a tiré un excellent film. Disons-le d'emblée, Beethoven est bien plus que cela. C'est un écrivain au style direct, avec un humour sarcastique, et c'est un écrivain qui a des convictions, qui le poussent à se situer du côté des exploités, des prolétaires, des Indiens. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je parle de Beethoven ? B, avec un point, Traven, Beethoven. Est-ce que c'est Bruno, Bernard ? On ne le sait pas. Toute sa vie, Beethoven a entretenu un anonymat rigoureux autour de sa vie, de son identité, de son passé. Il est mort en 1969 sans avoir livré aucun secret sur qui il était. Tout ce qu'on sait, c'est que ses livres traduisent le fait qu'il y a un homme qui a connu un grand succès, sauf en France donc, et qui signait Beethoven. Le reste, c'est un secret qui a été jalousement gardé. Bon, on en sait quand même un peu plus depuis que quelques passionnés se sont mis à enquêter, à fouiller des archives et à faire des recoupements. Je vous expose donc ce qui pourrait bien avoir été, tout au moins en partie, la vie de B. Traven. Concernant sa date de naissance, B. Traven laissait entendre qu'il est né tantôt en 1882 à San Francisco, tantôt en 1890 à Chicago, de nationalité anglaise, américaine ou scandinave. On a donc une idée grossière de son année de naissance, dans les années 1880-1890. Par contre, il est plus vraisemblable qu'il soit né en Allemagne ou encore dans la Pologne actuelle. Dans les années 1907-1915, il s'appelle Rett Marut et il est acteur de théâtre en Allemagne et en Autriche. Entre 1917 et 1921, il lance avec sa compagne une revue antimilitariste et anarchiste, Der Ziegelbrenner, le fondeur de Brick. C'est une revue radicale en période de guerre et de censure. La révolution éclate en Allemagne en novembre 1918 et il participe à la République des Conseils, on pourrait dire des Soviets, animé par les anarchistes. Le gouvernement rétablit l'ordre dans le sang. Rett Marut réussit à se sauver et replonge dans la clandestinité, tout en faisant paraître Der Ziegelbrenner jusqu'en 1921. On le retrouve en prison à Londres en 1923 et il débarque au Mexique en 1924 depuis un bateau inconnu. C'est la fin de Rett Marut et l'apparition de nouveaux noms comme Traven Torsvan, ou B. Torsvan, ou B. T. Torsvan, ou B. Traven, qui sera son nom d'écrivain à partir de 1926. Il est en contact avec les milieux syndicaux mexicains, notamment des IWW, Industrial Workers of the World. Il travaille dans le pétrole, dans l'agriculture, et connaît divers boulots. Il prend des cours universitaires pour connaître la langue et la culture mexicaine. En 1926, il est photographe dans une expédition scientifique au Chiapas, un territoire qui va le fasciner et où il reviendra à plusieurs reprises. Il faut par exemple savoir qu'à sa mort en 1969, ses cendres seront dispersées au-dessus du Chiapas. Nous reparlerons bientôt de Traven au Chiapas, un territoire et des habitants qui ont fortement marqué son œuvre. Une dernière anecdote pour situer encore en quoi Traven cultivait le mystère sur son identité. En 1947, quand John Huston réalise Le trésor de la Sierra Madre, il sollicite Al Crovis, le représentant de B. Traven, en tant que conseiller technique durant le tournage. En fait, il semble bien que Al Crovis et B. Traven ne soient qu'une seule et même personne, un seul et même homme. Bien, il est maintenant temps d'évoquer l'œuvre de B. Traven. Tout le monde s'est un jour amusé à poser la question « Et si tu devais emporter un livre sur une île déserte, lequel emporterais-tu » Eh bien, Albert Einstein, selon la légende, aurait répondu « N'importe lequel, pourvu qu'il soit de Traven. » L'œuvre de B. Traven, sous ce nom, s'étale entre 1926 et la fin des années 30. Plus un dernier livre tardif, écrit en 1960. Dès ses premières livraisons, B. Traven a connu le succès partout dans le monde, sauf en France. On peut d'ailleurs signaler le fait que plusieurs livres de B. Traven ne sont toujours pas traduits en français. Heureusement, cette situation semble évoluer. Beethoven écrit en allemand, envoie ses manuscrits à une maison d'édition en Allemagne qui les édite. Le succès est important dès les premières années, on l'a dit. On peut évoquer le nombre de 25 millions de lecteurs. Son premier roman, Les cueilleurs de coton, décrit des cueilleurs de coton mexicains, métis, indiens, chinois, noirs, qui s'en vont se louer à la tâche. Son second roman, Le Wobbly, évoque les syndicalistes itinérants des Industrial Workers of the World, les IWW, qui militaient dans le cadre d'un syndicalisme nomade au travers de métiers provisoires. Ils se déplacent d'un lieu à l'autre au gré des grèves et de l'embauche. En envoyant ses manuscrits à son éditeur allemand, Traven révèle à la gauche allemande le prolétariat mexicain, le prolétariat industriel et agricole. On retrouve cette constante dans ses premiers romans. Puis viennent 6 romans qui sont sans doute le cœur de son œuvre et qui constituent le cycle de la Caoba. On va un peu s'y attarder, puisque le roman que nous souhaitons vous présenter, à l'occasion de ce micro littéraire sur Micro Rebelle, le roman La Révolte des Pendus, est sans doute le plus important du cycle de la Caoba. Ce cycle est consacré aux Indiens du Chiapas, juste avant la Révolution mexicaine, en 1911, c'est-à-dire à l'époque du dictateur Porfirio Díaz. Sous Porfirio Díaz, les Indiens sont traités comme des esclaves et Traven leur voue une tendresse sans faille. Je vais donc maintenant entrer un peu plus dans ce cycle de la Caoba et puis dans notre roman, La Révolte des Pendus. Les Caobas, ce sont des acajous. C'est un bois très dur qui est exploité dans des monterias. Une monteria, c'est une plantation d'acajous. Et ainsi que le dit Traven, les monterias ont besoin de chair humaine pour que les bourgeois civilisés d'Europe et d'Amérique puissent se meubler avec des bureaux en acajou et que les banquiers et les grands patrons de l'industrie puissent trôner derrière des bureaux en acajou. Traven ajoute encore, on ne peut pas à la fois avoir du bois d'acajou pas cher et protéger des Indiens innocents, ces Indiens qui meurent par milliers pour abattre les grands arbres dans la forêt vierge, traîner leurs troncs dans la boue et puis les descendre en les faisant flotter sur les fleuves. C'est l'un ou l'autre. Dans le cycle de la Caoba, Traven décrit le travail de ces prolétaires indiens. Dans une monteria, il y en a plusieurs catégories en fonction de leurs tâches. Il y a les hacheros, hacheros comme hache, les bûcherons. Ce sont ceux qui manient les haches, des haches qui doivent être d'excellente qualité, car le bois d'acajou est dur comme fer, et chaque hachero doit fournir 2 tonnes par jour, sinon il reçoit amende et fouet. Après les hacheros, il y a les macheros, qui assistent les hacheros avec leurs machettes. Hacheros, la hache, le bûcheron, macheros, la machette. Il y a ensuite les boyeros. Les boyeros, ce sont les bouviers, qui manient les attelages de bœufs, qui doivent tirer les troncs découpés qui s'enfoncent dans la boue. Il s'agit de les tirer, ces troncs, ces trozas, jusqu'à la rivière, où ils vont être mis en flottille quand la saison le permettra. L'exploitation à laquelle est rattachée la monteria, la plantation d'acajou, c'est la finca. Dans la finca, tout le matériel dont ont besoin les hacheros, les macheros et les boyeros est décompté. Il s'agit des haches, des machettes, des éperons en fer pour grimper dans les arbres, des attelages, des chaînes. Ce matériel est vendu aux Indiens et on leur rembourse à la fin du contrat s'ils ne les ont pas perdus dans la boue. Et on leur vend, toujours à crédit, ce qui permet de prolonger leur contrat, les vêtements, la nourriture, l'aguardiente, c'est-à-dire l'alcool. Les propriétaires des monterias sont des étrangers. Ce sont des Nord-Américains ou, comme dans la révolte des pendus, des Espagnols. Ce qu'ils pillent ici, c'est la richesse du Mexique, dit Travène. La vie dans la Monteria est toujours plus insupportable. À la dureté du travail vient s'adjoindre la cruauté et les châtiments des surveillants, les capataz. Lorsque les ouvriers ne produisent pas leur ouvrage quotidien de ce bois d'acajou, tellement dur à entailler. La punition la plus terrible consiste à être suspendu pendant plusieurs heures, la nuit, dans la jungle, exposé aux moustiques, aux araignées et quelquefois aux pumas. Ce sont ces pendus-là qui vont finir par se révolter et donner son titre au roman « La révolte des pendus ». Je vous propose maintenant de nous centrer sur ce roman, pas à pas. Le roman « La révolte des pendus », dans la version que nous nous sommes procurés, est édité aux éditions La Découverte. C'est un roman de 300 pages, découpé en 20 chapitres. Il se lit très facilement, on adhère immédiatement aux descriptions de Travène et on suit le déroulement du roman avec un réel plaisir. Nous nous proposons dans ce cycle micro-littéraire, consacré à la révolte des pendus, de dérouler l'histoire, tout en vous faisant partager des extraits, chapitre par chapitre. Dans le premier chapitre du roman, on s'attache à suivre Candido. C'est un indien tzotzil qui vit dans la forêt, en autosuffisance, avec sa femme Marcelina et leurs deux garçons. Il dispose d'une terre aride, qu'il travaille durement, et sur laquelle il élève également quelques bêtes. La vie de ces indiens, libre de toute attache, ne fait pas l'affaire des finqueras, les propriétaires des fincas, les exploitations forestières de l'acajou, qui sont constamment à la recherche de main-d'œuvre. Un jour, Marcelina, la femme de Candido, tombe subitement malade d'un mal de ventre qui la fait horriblement souffrir. C'est l'appendicite. Il faut l'opérer. Candido l'emmène donc à la ville, chez le médecin, qui lui demande une somme d'argent que Candido ne possède pas. Le piège se referme alors sur lui. Un rabatteur lui propose 200 pesos, une véritable fortune pour Candido, qui n'a besoin que de quelques pesos pour payer le médecin, en échange de son engagement, par contrat signé, à travailler dans une monteria. De surcroît, pour l'instant, seuls 50 pesos lui sont donnés comme avance. Une avance bien inutile. Une fois rendu chez le médecin, Candido ne peut que constater le décès de sa femme, et l'argent qu'il a acquis est alors utilisé à l'achat du cercueil. C'est l'extrait que nous allons maintenant écouter.
Les entreprises de pompes funèbres sont ouvertes jour et nuit, car le climat exige qu'un cadavre soit enterré au plus tard dans les 12 heures qui suivent la mort, et souvent plus tôt. Candido trouva donc facilement une boutique ouverte faisant le commerce des cercueils. Le cercueil le meilleur marché était une caisse de bois rectangulaire, mal équarrie et peinte en noir. Mais l'artisan qui les fabriquait recevait un salaire dérisoire de l'entreprise. Il avait économisé le plus possible sur la peinture, de sorte que la couleur du bois apparaissait de partout. Le fond de la caisse n'était même pas badigeonné. « Ce cercueil coûte 4 pesos, » dit le marchand. « C'est bon, je le prends. »« Seulement, je crains qu'il soit un peu court pour ta femme, » reprit le marchand qui avait remarqué que Candido avait assez d'argent pour en acheter un plus cher. Un des Indiens prit la mesure du cadavre à longueur de bras, puis celle de la caisse et déclara « Ce cercueil est très suffisamment long, Candido. » Le marchand sentit qu'il allait perdre l'occasion de faire une vente plus avantageuse. Il tapa gentiment sur l'épaule de Candido et lui dit d'une voix attristée « Écoute, Chamulito, tu ne peux cependant pas enterrer la mère de tes enfants dans une méchante caisse comme celle-là. Que penserait la Sainte Vierge en la trouvant là-dedans? Elle serait capable de la laisser passer sans l'emmener au ciel. Et je ne crois pas que tu admettes que ta femme reste à la porte du paradis en compagnie des pécheurs, des bandits et des assassins. Cette caisse que tu veux acheter, c'est le modèle réservé aux cadavres qu'on trouve étendus le long des chemins, que personne ne connaît et qui n'ont pas de famille. Regarde plutôt cet autre cercueil, comme il est beau. Tu n'es pas obligé de l'acheter, mais regarde-le au moins. Crois-tu que ta femme y reposerait douillettement et confortablement? Si la Sainte Vierge voit un aussi beau cercueil, elle ira au-devant de ta femme, la prendra par la main et la fera entrer au paradis, ça c'est sûr, car elle verra tout de suite que la défunte n'est pas une pécheresse perdue, mais une bonne chrétienne qui a reçu le baptême. Je suppose que ta femme a été baptisée. Oui, patroncito, quand elle était toute petite. Alors tu ne peux pas la laisser enterrer dans cette boîte grossière. L'autre cercueil est bien raboté, joliment peint en noir au dehors et en blanc au dedans avec un filet doré comme tu vois. Et puis il est doublé à l'intérieur de papier de dentelle, du vrai papier de Chine. Combien coûte-t-il? Demanda Candido. 20 pesos, Chamulito. L'Indien fit une mine épouvantée. Alors, sur le champ, le marchand abandonna son ton commercial et lui dit d'une voix pleine de compassion. C'est dur, mon frère, de perdre une épouse. Je le sais mieux que n'importe qui, moi qui suis veuf pour la deuxième fois. En raison de ta triste situation et de ton chagrin, je te laisserai le cercueil pour 17 pesos. À ce prix-là, je ne gagne rien. Sur la tête de la Sainte Vierge, je te jure qu'il me coûte 16 pesos et 50 centavos. Alors commença le marchandage. Quand enfin l'Indien put étendre le corps de Marcelina au fond du cercueil, il avait déboursé 13 pesos. Il acheta encore des cierges bénis et de l'aguardiente, car il ne pouvait laisser aller les porteurs avec le gosier desséché.
Candido est donc maintenant lié par un contrat. Il peut disposer de 200 pesos, dont 50 lui ont d'ores et déjà été attribués, mais il doit alors travailler dans une monteria à l'abattage de l'acajou. Dans l'extrait suivant, Candido se voit rappeler ses engagements, ou plutôt le marché de dupes auquel il a souscrit par la force des événements.
Comme les autres ladinos, Don Gabriel passait toutes ses journées dans une boutique ou dans une autre, bavardant avec les commerçants, cherchant à rencontrer un visage de connaissance. Entre chaque visite, il allait faire un tour à la cantina pour y humecter son gosier assoiffé et pérorer avec ses amis, anciens ou nouveaux. Évidemment, il avait conscience que le moindre de ses propos, et surtout ses considérations politiques, avait une importance considérable. Quand il s'était dûment arrosé le gosier, il retournait à ses occupations et, de la sorte, atteignait la fin de la journée. Alors il trouvait un bon prétexte pour revenir à la cantina, et cette fois il ne se contentait plus d'une modeste copita. Il lui en fallait au moins une demi-douzaine. Après cela, il allait tourner en rond sur la plaza, ce qui le menait jusqu'à l'heure du souper. Comme le souper ne pouvait se passer sans l'aide d'une quantité raisonnable de liquide, une nouvelle visite à la cantina s'imposait. Le travail proprement dit des caballeros, indispensable, cela allait de soi, au progrès de la civilisation, était cependant coupé par intermittence. Il arrivait aussi qu'on parlât d'affaires sérieuses, car il faut savoir se rendre la vie commode et faire travailler ceux qui ne sont pas des caballeros et qui n'ont pas les moyens de récolter sans avoir labouré. C'était ces occasions, qui duraient quelques minutes à peine, que Don Gabriel s'entendait merveilleusement à mettre à profit. Pendant une de ces minutes, il avait su entortiller Candido dans les lacs d'un contrat, et voilà qu'une nouvelle occasion fugitive s'offrait à lui de retirer le bénéfice du contrat. Courir les boutiques, y faire halte pendant des heures et y discourir sans but, ce n'était pas à tout prendre aussi improductif qu'on aurait pu le supposer, puisque s'il ne s'était pas trouvé chez le quincailler, oisif en apparence, il n'aurait pas retrouvé Candido et n'aurait pu tenir avec lui les propos importants. « Dis-moi, Chamula, tu n'oublies pas que le groupe s'en va lundi au Monterías et que tu en fais partie ?»« Mais, patroncito, je n'ai pas pris l'argent puisque ma femme est morte avant l'arrivée du docteur. » « Les 200 pesos sont à ta disposition. Tu peux les retirer chez le pharmacien quand tu voudras. » Bien entendu, l'argent n'était ni à la pharmacie ni nulle part. Mais Don Gabriel pensait que si Candido réclamait, par hasard, cet argent dont il n'avait plus besoin, il serait toujours temps de l'y déposer ou de les lui faire oublier à force de belles paroles. Mais Candido s'obstina doucement. « Non, jefecito, je n'ai pas pris l'argent. Alors il n'y a pas de contrat avec la Monteria. » « As-tu accepté les 50 pesos, oui ou non ?»« Mais je peux les rembourser ?» Sur le moment, Don Gabriel parut déconcerté. Il eut peur de perdre son homme. Mais il se rassura presque aussitôt. Il était impossible que l'Indien eût les 50 pesos, car il se souvenait qu'il avait payé le médecin et acheté le cercueil. D'autre part, il était certain que jamais il n'avait pu économiser autant. « Crois-tu que je vais écouter tes histoires » répondit-il. Quand même tu me rapporterais les 50 pesos, tu ne serais pas pour autant cela délié de tes obligations. Tu as signé le contrat devant témoin et tu as reçu une avance également devant témoin. N'aurais-tu pris que 3 pesos, ce serait pareil, tu es lié. Faut-il que je t'emmène au poste de police où l'on se chargera de te dire qui de nous deux a raison ? Candido ne répondit rien. Alors une crainte surgit dans l'esprit de Don Gabriel. Oh oh, aurais-tu l'intention d'essayer de filer ? Je vais mettre bon ordre à cela et tout de suite. » Immédiatement, Candido comprit et entrevit la suite des événements. Il bondit jusqu'à la porte, et sans doute aurait-il réussi à s'enfuir s'il n'y avait pas eu ses fils, qu'il ne pouvait pas abandonner tout seul dans la ville. Il leur cria de le suivre. Mais déjà Don Gabriel s'était précipité et avait empoigné les enfants, chacun par un bras. D'une voix tonitruante, il appela « Policia, policia, acá, acá !»
Le troisième chapitre, dont nous allons entendre un extrait, voit Candido, sa sœur Modesta et ses deux garçons se rendre à la Monteria, à pied, en cortège, avec l'ensemble des autres Indiens qui ont eux aussi été recrutés pour servir de main-d'œuvre aux propriétaires forestiers.
Les traînards suivaient à distance. Derrière eux, Epitacio, le capatas à cheval, fermait la marche et les forçait à rejoindre les autres. « Hola, Chamula, en avant, corre, corre » cria-t-il à Candido. « Nous sommes arrivés. Le camp est proche. Tu pourras t'y accroupir tout ton soul et reposer tes fesses de feignant. Allons, en avant, adelante !» Il fit claquer son fouet et répéta ses encouragements à un autre retardataire. Candido rajusta les courroies autour de son front, se releva et les enfants ramassèrent leurs paquets. Modesta retourna rapidement à l'endroit où elle avait laissé son bagage, se passa la sangle autour du cou et rejoignit sa famille. « Vas-tu à Hukustin, Hermanita ?» demanda Candido, en avançant péniblement. « Oui, mon frère, j'y vais. »« Tu as sans doute trouvé une bonne place. On dit que Hukustin est très grand, beaucoup plus que Chamo, aussi grand que Vitstan. Je pense que tu seras mieux payé que tu ne l'étais au Pueblito, chez Doña Polina. » Modesta ne répondit pas. Ils marchèrent aussi vite qu'ils purent pour attraper la colonne. La troupe, déjà, traversait la ville. Les habitants se tenaient devant leur maison ou sur le pas des portes et regardaient passer les Indiens fourbus, avec le même plaisir qu'on met ailleurs à voir défiler un régiment. Car cette colonne d'Indiens signifiait pour eux des affaires fructueuses. Leur ville, en effet, était la dernière bourgade avant d'arriver à la brousse, c'est-à-dire que c'est, pour les Indiens, la dernière occasion de faire des achats. C'était à cette étape qu'on verserait aux bûcherons le solde de leurs avances. Ensuite, ils ne verraient plus la couleur d'une pièce de monnaie avant l'expiration de leur contrat. Dans la brousse, il n'y a rien à acheter et l'argent n'a plus aucune valeur. C'est pourquoi tous allaient dépenser jusqu'au dernier sou ce qu'on allait leur donner ou ce qu'ils possédaient. La joie des habitants s'expliquait donc facilement. Bien entendu, la colonne traversa la ville et alla jusqu'au campement situé au dehors et installé sur une maigre prairie dont l'herbe disparaissait à demi sous les cailloux. Ensuite, on fit l'appel pour mener les travailleurs au Cabildo où le maire devait viser leur contrat. Ce n'est qu'après cette formalité qu'ils furent libres de se promener et d'aller à leurs emplettes.
Le quatrième chapitre de la révolte des pendus est un chapitre clé. Il explique en quelque sorte en quoi les prolétaires, les travailleurs, sont la variable d'ajustement pour les possédants. En pratique ici, les frères Montelano possèdent trois exploitations. Pour que l'ensemble soit rentable à leurs yeux, il faut que chaque jour, chaque travailleur abatte l'équivalent de 1 à 2 tonnes de bois, ce qui est déjà considérable. Il se trouve que l'une de ces trois exploitations devient inutilisable du fait des conditions climatiques. La solution devient alors évidente pour les trois frères. Il suffit bien sûr de concentrer tout le travail sur les deux autres exploitations, celles qui sont viables, en exigeant que chaque travailleur, chaque Indien, produise le double. On imagine ce que cela peut signifier en matière d'exploitation de ces travailleurs. Je vous laisse écouter l'extrait suivant qui concerne justement la vision des propriétaires, les frères Montelano.
Don Acacio avait écrit 3 jours auparavant. C'était sa première et unique lettre depuis qu'il était là-bas. Il avait envoyé par un capatas à cheval. Don Acacio informait ses frères que l'exploitation des 2 petites monterias qu'il dirigeait devait être provisoirement suspendue. Profondément encaissées entre des collines et des montagnes, les fortes pluies récemment tombées les avaient transformées en marécages. Les bœufs ne pouvaient plus avancer sans risquer de s'embourber, et par conséquent le transport des trossas aux trumbos devenait impossible. Enfin, circonstance plus grave encore, l'abattage était interrompu car les bûcherons s'enlisaient. Bref, cette lettre apportait à Don Severo la nouvelle désastreuse que les coupes des Monterias de Don Acacio pouvaient être considérées comme perdues pour cette année, et cette perte était d'autant plus sensible qu'elle représentait à peu près la moitié de la production totale prévue. Or, ce déficit allait probablement les empêcher de faire face aux obligations qu'ils avaient contractées en achetant l'exploitation, et dans ce cas, il était possible que la compagnie vendeuse reprît son bien et le vendît à d'autres, comme elle était en droit de le faire au terme du contrat, dont les clauses étaient particulièrement dures en raison de la faible somme payée comptant par les frères Montelano à la signature. Immédiatement, Don Severo s'était rendu à l'administration pour examiner la situation avec son frère Félix, et tous deux avaient conclu qu'il ne leur restait qu'un moyen de sauver la production de l'année. Ils avaient reconnu que leur cadet, Don Acacio, était le plus énergique des trois quand il s'agissait d'obtenir des bûcherons un maximum de rendement. Si Don Acacio écrivait que son district était provisoirement inexploitable, ce devait être vrai, et personne au monde n'aurait fait mieux que lui. Dans ces conditions, puisque les deux petites Monterias ne pouvaient produire, il fallait à tout prix doubler au moins la production de la grande, et si c'était possible, la quadrupler. C'était une question de rendement, car le caoba était assez abondant à l'Harmonia pour combler n'importe quel déficit. Personne n'était plus qualifié que Don Acacio, assisté de ses capataces dressés par lui, pour obtenir ce résultat. Don Severo et Don Félix savaient parfaitement que Don Acacio courait de gros risques, mais il fallait bien faire quelque chose si l'on voulait gagner la partie. Le messager de Don Acacio remporta la réponse qui invitait Don Acacio à se transporter à la Harmonia avec ses hommes pour y ouvrir de nouveaux chantiers. Mais Don Acacio, au moins aussi intelligent que ses aînés, avait déjà pris les devants. Il était sur le chemin de la Harmonia quand il rencontra son messager, par bonheur pour ce dernier qui était justement sur le point de s'embourber avec son cheval. Quand Don Acacio et sa troupe étaient arrivés au camp principal pour prendre possession des vivres et du matériel, Don Severo, lui, était parti de la veille pour inspecter la production du district administré par El Picaro, le Campo Sur.
Bien, cette émission micro-littéraire sur Micro-Rebelle se termine. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Nous l'avions commencé par un morceau du groupe La Flor del Ostro et nous allons en écouter un second. Un autre morceau qui justement porte ce nom, La Flor del Otro, qu'on pourrait traduire par Fleur Autre. Voilà, merci encore. Peut-être un dernier rappel concernant la musique qui nous a accompagnés tout au long de ce micro-rebelle littéraire, hein, au-delà du groupe La Flor del Otro. Cette musique, c'était un extrait de Pulgin de Lupez, qui est un artiste uruguayen. À très bientôt, à la semaine prochaine, pour la suite de ce cycle La Révolte des Pendus.
Ni contigo ni sin ti, tiene mi pena remedio. Contigo porque me matas y sin ti, porque me muero. Son palabras pasajeras, un día el viento se las lleva. Cuando aprendes a perder y sin perder la cabeza. Ser pirata de tu barco, surcar tu mares un rato y ofrecerte lo bueno, pues es lo único que tengo. Sin amores controlados, sin costumbre ni adicción, sin depender de tu cariño, sin enjaularte el corazón. Yo te quiero libre, libre quiero ser. Libre ya tu vez. Yo te quiero libre, libre quiero ser. por lo que aportas a mi día. Pero es que